Alors, on va commencer notre 20e leçon dans notre série sur la sanctification. Ce soir, on va regarder la signification et la condition d'un homme hors du Christ. Il y a des versions qui disent dans Éphésiens 2, verset 12, « Sans Christ, vous étiez alors sans Christ. » Mais dans les versions qui sont comme la Lausanne, sur laquelle on travaille présentement, on traduit ça, eux autres, par, au lieu de « vous étiez sans Christ », »,« vous étiez hors du Christ ». Moi, je trouve la traduction très, très, très proche là, de l'original et bien exprimée. Alors, on va aller lire le passage, je vais le lire dans la version Lausanne. Éphésiens chapitre 2, versets 11 à 13. C'est pourquoi, souvenez-vous que vous, autrefois, les nations dans la chair, appelée incirconcision, parce qu'il est appelé la circoncision, faite de main dans la chair. Autrement dit, tu es en train de dire, vous qui êtes des nations, des païens, appelés incirconcis par les juifs qui s'appellent des circoncis. Et là, il leur dit quelque chose. Il dit, vous étiez en ce temps-là, en parlant du moment où ils ne connaissaient pas Christ encore, vous étiez en ce temps-là hors du Christ, séparés de la République d'Israël et étranger aux alliances de la promesse, n'ayant point d'espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, dans le Christ Jésus, vous qui autrefois étiez loin, vous avez été rapprochés par le sang du Christ. Alors, ce texte décrit l'état des Éphésiens avant qu'ils soient devenus chrétiens. Mais je pense que ces versets-là décrivent aussi tout homme qui n'est pas encore converti à Dieu. C'est un état misérable au-delà de toute conception. Quand on s'imagine... Des fois, on en rencontre plein d'inconvertis au cours de nos journées. Hein? Mais des fois, on ne réfléchit pas assez à l'état de misérabilité qu'on pourrait dire dans lequel ils sont. Ils sont, on pourrait dire, sur le bord de tomber dans l'éternité, mais dans l'enfer. Et ça, c'est le tous ceux qui n'appartiennent pas à Christ, qui sont hors du Christ, comme le texte dit, sont dans cet état-là. Si on le pensait véritablement, on serait beaucoup plus, peut-être pressé, beaucoup plus généreux aussi dans notre manière de présenter l'Évangile à ces gens-là. Souvent, notre problème, c'est que justement, des fois, on oublie que s'ils décèdent là, ils s'en vont là. Alors, un homme peut être sans argent, sans santé, sans maison ou sans amis. Mais il est beaucoup plus grave d'être hors du Christ. Alors, on va examiner le passage et regarder un petit peu qu'est-ce qu'il contient. Alors, on va regarder ça de deux idées principales. La première, c'est quand peut-il être dit qu'un homme soit hors du Christ? L'expression « être hors du Christ », bien entendu, c'est inspiré par le Saint-Esprit, parce que toute écriture est inspirée de Dieu, comme ça dit dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 16. Alors, elle a été utilisée, cette expression-là, par l'apôtre Paul, lorsqu'il a voulu rappeler aux Éphésiens leurs conditions avant qu'ils eussent entendu l'Évangile et qu'ils l'eussent cru. Ils peuvent l'avoir entendu sans l'avoir cru. Ils étaient alors, comme le texte le dit, ignorants, dans les ténèbres, submergés dans l'idolâtrie. On sait que les Éphésiens, quel était leur problème? Ils adoraient la déesse Diane. Alors, et le paganisme et l'adoration de cette fameuse fausse déesse Diane. Cependant, Paul leur explique plus précisément ce que signifie l'expression « être hors du Christ ». Alors, on va regarder au moins trois idées. Qu'est-ce que ça signifie être hors du Christ? La première, un homme est hors du Christ lorsqu'il n'a pas connaissance de lui, de Christ, bien entendu. Et quand on regarde l'ensemble des pays, on a vu des pays ce soir, là, Éthiopie, on peut prendre un paquet de pays du monde où des gens, de la Chine, des gens qui sont perdus, qui n'ont jamais entendu parler de Christ, alors ils sont dans cet état-là, ils sont hors du Christ parce qu'ils ont pas de connaissance de la personne de Christ. Des millions, si ce n'est pas des centaines de millions, d'hommes sont dans cette situation sur la terre de nos jours. Ces hommes ne savent pas qui Christ est, ce que Christ a fait, ce que Christ a enseigné, pourquoi il a été crucifié, ni où il est présentement, ce qu'il fait présentement, ni quelle est sa relation avec les hommes. En un mot, une complète ignorance de Christ. Je me souviens quand on était à l'île d'Orléans, Lucie gardait des personnes à Saint-Pierre. La petite fille avait à peu près 8 ans. Puis elle parlait du Christ, là, mais une ignorance, là, crasse. On avait 6-7 ans, on commençait à nous parler du Seigneur à l'école, en tant qu'on est à l'école, en tout cas, à mon temps. Aujourd'hui, ceux qui choisissent d'être la formation religieuse, mais sans parler de la Bible ou quoi que ce soit, ils ont 8 ans, 9 ans, puis ils ne savent même pas c'est qui Jésus. Alors, l'ignorance, c'est pas juste dans les pays comme l'Afrique puis ces coins-là, là. Elle est ici, au Québec. Alors, de plus en plus. Mais il y a une autre chose qui est grave. On parle de ceux qui sont ignorants, hors du Christ, dans les pays, que c'est évident que c'est des païens. Mais il y a une autre réalité qu'on se doit de considérer. Il y a des inconvertis parmi ceux qui professent croire en Christ. C'est ce que les Écritures nous enseignent. Prenez Matthieu 7, où le Seigneur dit, à la fin des temps, il va dire, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait ci à ton nom? Retirez-vous de moi, maudit, je ne vous ai jamais connu. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des gens qui professent être des croyants, mais qui, dans le fond, n'en sont pas. Ils sont des païens. Des païens qui sont assis dans des bancs d'église. Ça, c'est à faire réfléchir un petit peu. Alors, la preuve que être croyant, c'est connaître Christ, on va aller dans Jean 17, au verset 3, ça dit « Or, c'est ici la vie éternelle. » Alors, il est en train d'expliquer qu'est-ce que c'est la vie éternelle. « Or, ici, c'est la vie éternelle qu'ils te connaissent, toi, le seul Dieu véritable, et celui que tu as envoyé. » La vie éternelle, c'est de connaître le Dieu véritable et Jésus-Christ. Et 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 6 à 9. « Si du moins il est juste devant Dieu qu'il rende la tribulation à ceux qui causent vos tribulations, et qu'à vous qui êtes dans la tribulation, il donne du soulagement avec nous quand le Seigneur Jésus sera révélé du ciel avec les anges de sa puissance, dans un feu de flamme, exerçant la vengeance sur ceux qui ne connaissent point Dieu et sur ceux qui n'obéissent point à la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils auront leur peine, une ruine éternelle de par la face du Seigneur et de par la gloire de sa force. » Mais il y a une chose qu'il faut continuellement se rappeler, c'est que le Seigneur est juste et qu'il sait faire la différence entre ceux qui lui appartiennent et ceux qui ne lui appartiennent pas. Aux yeux des hommes, des fois dans une église, disons qu'on le dimanche matin, on est peut-être 30, 35, des fois, ça dépend des dimanches. Mais moi, je ne peux pas dire qui est sauvé et qui n'est pas sauvé. Mais le Seigneur, lui, il sait c'est qui est sauvé et c'est qui n'est pas sauvé. Mais c'est quelque chose d'extraordinairement grave de penser que des gens qui ont pu être dans une église et avoir la Bible dans les mains pendant une longue période de temps et d'avoir entendu des sermons pendant des années et de ne pas connaître Jésus-Christ. Quelque part, ça fait peur. Et ça met la responsabilité non seulement sur le prédicateur, qui est énorme, mais qui met aussi la responsabilité sur les auditeurs aussi. Alors, tu as eu les Écritures dans les mains, puis soit tu ne les as pas ouverts, ou soit que tu étais tellement, comme la parabole des semences, ça a tombé à côté du chemin, ou ben non, les soucis du monde ont fait en sorte que, bon, ça a pas porté de fruits. Mais le Seigneur nous dit, dans Genèse, chapitre 18, verset 25, « Loin de toi d'agir de cette manière en faisant mourir le juste avec le méchant, et sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi, celui qui juge toute la terre ne ferait-il pas ce qui est droit? » Les Écritures nous enseignent que Jésus, que le Père ne peut pas se tromper, il va toujours faire ce qui est juste et droit. Alors, première chose, quand peut-il être dit qu'un homme soit hors du Christ? C'est quand une personne n'a pas de connaissance de lui, en parlant de Christ. Deuxième chose, un homme est hors du Christ lorsqu'il n'a pas la foi du cœur en Christ comme son sauveur. Il est malheureusement possible de connaître beaucoup de choses sur Christ sans placer sa confiance en lui pour son salut. Plusieurs professants croient qu'ils iront au ciel parce qu'ils se sont bien conduits moralement, qu'ils ont dit leurs prières régulièrement, qu'ils ont été baptisés, qu'ils ont pris le repas du Seigneur fidèlement ou qu'ils ont été à l'église semaine après semaine. Rappelons-nous que Simon le magicien avait été baptisé et professait croire. Alors, quand on lit dans Actes 8, versets 18 à 23, « Or, Simon, voyant que le Saint-Esprit était donné par le moyen de l'imposition des mains des envoyés, leur offrit de l'argent en disant, « Donnez-moi aussi ce pouvoir que tous ceux à qui j'aurai imposé les mains reçoivent l'Esprit-Saint. » Mais Pierre lui dit, « Que ton argent aille en perdition avec toi, puisque tu as pensé acheter le don de Dieu avec de l'argent. Il y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Convertis-toi donc de cette malice qui est en toi, et prie Dieu afin que, s'il est possible, la pensée de ton cœur te soit pardonnée. Car je vois que tu es dans un fiel d'amertume et dans un lien d'injustice. » Qu'est-ce qu'il est en train de lui dire? Il est en train de dire que je vois que tu n'es pas converti, tu n'es pas sauvé, tu prétends que tu crois, tu as été même baptisé, puis tu n'es pas converti. Alors, c'est la preuve que ces choses-là existent. Alors, la connaissance qu'on pourrait appeler en anglais, ils appellent ça du « head knowledge ». On peut avoir du « head knowledge », ça veut dire une connaissance purement intellectuelle concernant Christ, qui il est, ce qu'il a fait, et sa relation avec les croyants, sans nécessairement qu'il soit ton sauveur. Et ça, c'est tragique quand on y pense. Alors, dans Jean, chapitre 3, verset 36, ça dit, « Qui croit au Fils a la vie éternelle, mais qui est rebelle au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Marc 16, verset 15 et 16, « Il leur dit, allez dans tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui aura cru, qui aura été baptisé, sera sauvé, mais celui qui n'aura pas cru sera condamné. » Troisième chose, donc, un homme qui est hors du Christ, il n'a pas la connaissance du Christ, un homme qui est hors du Christ n'a pas la foi du cœur en Christ comme son sauveur. Et troisième chose, un homme est hors de Christ lorsque l'œuvre du Saint-Esprit n'est pas vue dans sa vie. Jean 3, verset 3, allez jusqu'au verset 6. Jésus lui répondit et lui dit, « Amen, amen, je te le dis. À moins que quelqu'un ne soit engendré d'en haut. » J'aime beaucoup la manière dont la Lausanne traduit ce verset-là. Jésus lui répondit et lui dit, « Amen, amen, je te le dis. À moins que quelqu'un ne soit engendré d'en haut, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il être engendré quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et être engendré? » Jésus lui répondit, « Amen, amen, je te le dis. À moins que quelqu'un ne soit engendré d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Car ce qui a été engendré de la chair est chair, et ce qui a été engendré de l'esprit est esprit. » Matthieu 18, versets 2 et 3. Et appelant à lui un petit enfant, Jésus le plaça au milieu d'eux et dit, « Amen, je vous le dis, à moins que vous ne vous tourniez vers Dieu et que vous ne deveniez comme les petits-enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. » 1 Jean, chapitre 2, verset 6. « Celui qui dit demeurer en lui doit aussi marcher lui-même comme il a marché. » Romains 8, verset 9. « Et vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Or, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, celui-là n'est point à lui. » Alors, autrement dit, si on ne voit pas les fruits de la vie de l'esprit dans la vie d'une personne, ça peut être une foi intellectuelle qui n'est pas une véritable foi. La véritable foi produit des changements, des transformations dans la personnalité, dans la vie d'une personne. Alors, le véritable chrétien ne devrait pas négliger d'assister à ces assemblées. Ce devrait de se faire un plaisir de lire, d'écouter, de méditer, d'étudier et de mémoriser la Bible. Ce chrétien-là devrait avoir aussi une vie de prière fervente et régulière. Il se devrait aussi d'aimer, de développer de la communion fraternelle avec ses frères et sœurs et aura l'amour des âmes en partageant l'Évangile autour de lui par tous les moyens. En un mot, Christ sera le centre de tous les aspects de sa vie. Deuxième point qu'on va regarder, quelle est la condition de l'homme hors du Christ? La première, être hors du Christ, c'est être sans Dieu. Plusieurs se font des illusions en se persuadant qu'ils ne sont pas pires que les autres, qu'ils n'ont pas fait de tort à leur prochain et que Dieu aura probablement miséricorde sur eux. Quand j'ai fait de l'évangélisation dans les rues à Québec, j'ai entendu ça des centaines de fois. Quand on parle d'évangile à quelqu'un, oh ben, je ne suis pas pire que les autres, je ne fais pas de tort à mon prochain, donc je vais aller au ciel. Et là, quand tu roules la Bible, puis tu y montes un verset, puis tu dis, tu voudrais-tu lire ça ici, là? Et que là, il lit, là, il fait un saut, puis il ne sait plus quoi dire. Parce que c'est la parole qui parle. Alors, la miséricorde divine n'est pas indépendante de la personne et de l'œuvre du Christ. Parce que les Écritures nous disent que, dans Hébreux, chapitre 12, verset 29, c'est un verset qu'on connaît, on a entendu, mais je ne suis pas sûr qu'on comprenne ce qu'il veut dire, « Car notre Dieu est aussi un feu consumant. » Qu'est-ce que c'est en train de te dire? C'est quand tu te présentes devant Dieu, puis tu n'es pas prêt. Ça fait les mêmes effets sur toi qu'un feu qui voudrait te consumer. C'est ça que ça fait. Jean 5, versets 21 à 23, car comme le Père réveille les morts et les fait vivre, de même aussi le Fils fait vivre ceux qu'il veut. C'est un beau verset. Hein? Car le Père non plus ne juge personne, mais il a donné le jugement tout entier au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Et regardez la dernière partie du verset. Qui n'honore pas le Fils, n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Jean 14, verset 6, on cite ce verset-là quasiment par cœur. Jésus lui dit, c'est moi qui suis le chemin et la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. En un mot, être hors du Christ, c'est aussi être sans Dieu. Autre chose, qu'est-ce que la condition d'un homme hors du Christ? Être hors du Christ, c'est être sans paix. Tout homme a une conscience. Celle-ci ne peut être satisfaite que lorsque le sang de Christ est aspergé sur ses péchés. Le reproche de nos péchés passés, la peur des manquements qu'on a présentement et de nos défaillances morales actuelles, et la pensée du jugement futur ne peut trouver de la satisfaction que dans la méditation et la compréhension que Christ a subi volontairement et substitutivement le châtiment équivalent de ce que nous aurions dû subir en enfer à notre place pour tous nos péchés sans exception, passé, présent, à venir, et que la parfaite obéissance que le Père exigeait de chacun des hommes ait été accomplie, encore une fois, par Christ pour tous ses élus, encore une fois de façon volontaire et substitutive. Ça, là, vous allez me l'entendre dire, il va, à un moment donné, vous allez dire, il est fatigant avec ça. Mais c'est une vérité tellement importante, je sais que ça marche comme la publicité, là, la prédication. À force de frapper sur le même clou, ça finit par rentrer et ça finit par rester. Ce qui est important, c'est que ça reste. Comme on dit, notre conscience ne peut pas trouver de la paix à moins de comprendre ces deux choses-là. Que tous tes péchés, passé, présent, avenir, ont tous été payés sur la croix par Christ parce qu'il a accepté de subir le châtiment qu'on aurait dû subir à notre place. Donc, tu trouves, quand tu fais un péché, tu as une chute, tu as une défaillance. Faut que tu reviennes à ça. Oui, mais Christ a payé pour celle-là aussi. Puis il va payer pour celle que tu vas faire demain. Puis il va payer pour celle que tu vas faire jusqu'à la fin de tes jours. Mais si ça avait été juste ça, tu n'aurais pas pu aller au ciel. Parce que le Père exigeait en même temps une parfaite obéissance à la loi pour toute ta vie, sans exception, sans avoir manqué une seule fois. Qui a fait ça? Personne. Alors, les deux aspects du salut, l'obéissance, ce qu'on appelle en théologie l'obéissance passive, l'obéissance active de Christ, nous sont donnés. Dieu nous voit comme si on n'avait jamais péché. Et Dieu nous voit comme nos péchés ont été payés par quelqu'un d'autre. Donc, on parle de la substitution. J'ai parlé dimanche de 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 20 et 21, parce que je trouve que c'est tellement un beau verset qui parle des deux aspects, de façon très claire, quand on se donne la peine de l'étudier le texte un peu plus en profondeur. C'est donc pour le Christ que nous sommes ambassadeurs, comme si Dieu exhortait par notre moyen. Autrement dit, imaginez-vous comme étant l'ambassadeur. Moi, là, je suis convaincu que le Canada ne me considérerait même pas pour être représentant, pour être l'ambassadeur d'un pays. Mais, à cause du fait que j'appartiens à Christ, je suis ambassadeur de beaucoup plus haut que le gouvernement du Canada. Je suis ambassadeur de la personne de Christ, et ça dit que nous sommes comme si Dieu exhortait par notre moyen. Et ça dit, c'est pour le Christ que nous supplions, soit disant, soyez réconciliés avec Dieu. Autrement dit, notre job comme ambassadeur de Christ, c'est de dire aux gens, soyez réconciliés avec Dieu. Parce que si vous ne l'êtes pas, puis vous décédez dans cet état-là, vous allez aller en enfer pour l'éternité. C'est une réalité, c'est pas un mythe, ça, là, si on croit aux Écritures. Verset 21, car celui qui n'a point connu le péché, qui? Jésus-Christ. Il l'a fait être péché pour nous. Autrement dit, le Père a jugé les péchés de tous ses élus, de tous les temps en Christ. Il lui a fait subir l'équivalent du châtiment que nous aurions dû subir en enfer pour l'éternité. On n'a pas d'idée de la quantité de douleur, de souffrance qu'il y a là-dedans. On n'a pas un être humain qui comprend ça. Puis même dans l'éternité, je pense que ça va être une affaire à méditer. Celui qui n'a pas connu, il l'a fait pécher pour nous, afin que, dans le but de, que nous devenions justice de Dieu pour lui. On est juste. Pourquoi on peut dire que chacun d'entre nous, si on est un véritable croyant, qu'on est juste? On est juste parce que Dieu nous voit comme si on avait accompli la loi que Christ a accomplie à notre place. Donc, tout le salut, c'est substitutif. Christ a accompli la punition à notre place et Christ a accompli les exigences de Dieu à notre place. C'est tellement glorieux, le salut. Jean 16, verset 33. « Je vous ai dit ces choses afin qu'en moi, vous ayez la paix. Dans le monde, vous aurez de la tribulation, mais ayez bon courage, j'ai vaincu le monde. » Être hors de Christ, c'est être aussi sans espérance. Les véritables croyants devraient être capables de témoigner aux autres la raison de leur espérance, comme on lit dans 1 Pierre 3, verset 14 à 17, mais je vais juste lire la partie qu'on se doit d'entendre. « Et soyez toujours prêts à défendre la foi avec douceur et crainte auprès de quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. » Si tu dis à quelqu'un, toi, « Moi, je vais aller au ciel un jour. » Faut que tu sois capable de... Si la personne te demande « Pourquoi? » Faut que tu sois capable de lui dire « Pourquoi? » Tu défends l'espérance qui est en toi. Et être, dernier point, être hors du Christ, c'est être sans le ciel. Un homme qui ne considérerait pas Christ comme son sauveur ne se sentirait pas à l'aise au ciel, parce que l'essence même du ciel, c'est être là où Christ est. Et là, j'ai toute une série de versets, on ne va pas tous les lire, je n'ai pas le temps, mais je vais en lire au moins deux. Apocalypse 5, verset 6. Et je regardai, et voilà au milieu du trône et des quatre êtres vivants, et au milieu des anciens, un agneau qui était là, comme égorgé, ayant sept cornes et sept yeux, qui qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il est en train de nous parler du ciel, puis il est en train de nous dire qu'au milieu du trône, il y a un agneau. Il parle de Christ, bien entendu. Apocalypse, chapitre 7, versets 15 à 17. C'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu et ils lui rendent leur culte jour et nuit dans son temple. Et celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne tombera plus sur eux, ni aucune chaleur. Parce que l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les guérira et les guidera, c'est-à-dire vers les sources vivantes des eaux, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Quel beau passage. Après ça, on a encore Apocalypse 19, verset 9, Apocalypse 21, verset 22, 23, Apocalypse 2, 3. On va juste lire Apocalypse 22, verset 3. « Et il n'y aura plus aucune malédiction. Et le trône de Dieu et de l'agneau y sera. Et ses esclaves lui rendront leur culte. » Et après ça, le pasteur Ryle y énumère toute une série de choses que nous serions si nous sommes hors du Christ. Il dit, et là, il aurait pu développer chacun des points, mais il fait juste dire, voici, je vais vous en donner d'autres choses. Il dit, nous serions sans vie, nous serions sans force, nous serions sans sécurité, nous serions sans fondation, nous serions sans un ami dans le ciel, et nous serions sans justice. Alors, c'est l'équivalent que l'arche de Noé. Christ est pour nous l'équivalent que l'arche a été pour Noé. L'agneau pascal pour Israël en Égypte. Tu te souviens que s'il n'y avait pas de sang sur les poteaux et les linteaux, tout le monde mourrait, excepté ceux qui avaient ça autour de leur porte. C'est également la manne, le rocher spirituel, le serment des reins, la colonne de nuée. Alors, quand on regarde l'Ancien Testament et qu'on lit toutes ces histoires-là dans tous les livres de l'Ancien Testament, voyons Christ donnant ça parce que c'est de lui sa part. Alors, notre vie doit être caractérisée par la vision permanente qu'il y aura un jugement et que le ciel et l'enfer sont d'authentiques et éternelles réalités. Ce que souvent j'ai lu pour les plus grands prédicateurs et les plus grands missionnaires qu'il y a eu sur la terre, c'était des gens qui, les réalités de l'enfer et du ciel étaient des choses qui ne sortaient jamais de leur esprit. Pour eux, l'éternité, ils vivaient comme sachant qu'ils sont sur le bord et que les gens qui sont devant eux, eux aussi sont sur le bord. Et plus tu es conscient de ça et plus tu demeures conscient à tout moment de la journée, plus tu deviens une personne. En un mot, être hors du Christ, c'est être infiniment misérable. Trois applications. Connaissons-nous absolument la condition dans laquelle nous nous trouvons? Sommes-nous hors du Christ? Deuxième application. Si nous avons le moindre doute quant à notre condition, implorons et cherchons le Seigneur pendant qu'il est encore temps. Ne nous accordons aucun délai. Matthieu 11, versets 28 à 30, c'est Christ lui-même qui parle et dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, parce que je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est bon et mon fardeau léger. » Troisième application et dernière, si vous êtes persuadé d'être en Christ, nous vous exhortons à lui exprimer toute votre gratitude. Avons-nous des êtres chers ou des voisins qui ne lui appartiennent pas encore, ne cessez pas de les amener au trône de la grâce avec ferveur et constance pour chercher à obtenir miséricorde pour eux. Être en Christ, c'est la paix, la sécurité, la joie et la vie éternelle. Être hors du Christ, c'est être au bord du précipice de la perdition éternelle. Gardons continuellement ces vérités dans notre esprit par sa grâce, et pour sa gloire.